Même chose lorsque nos nerfs digestifs reçoivent des informations faussées. Ils ne retiennent pas le suc gastrique et le laissent repartir en marche arrière. Le cardia, qui fait la jonction entre l'œsophage et l'estomac, est un endroit idéal pour rater la marche. En dépit des mesures de sécurité, œsophage étroit, ancrage dans le diaphragme et virage dans l'estomac. Il y a toujours des ratés. Il s'agit là d'un trouble courant qui toucherait en France une personne sur trois. Le phénomène n'est pas forcément à mettre sur le compte de nouvelles habitudes de vie. Quand il s'agit de remontées acides ou de reflux gastro-œsophagien, les populations nomades, dont le mode de vie n'a pas changé depuis des siècles, présentent des taux similaires à ceux des autres populations. Le hic, c'est que dans cette zone de haute pression, entre l'œsophage et l'estomac, deux systèmes nerveux différents doivent travailler main dans la main. Le système nerveux couplé au cerveau et le système nerveux de l'appareil digestif. Les nerfs du cerveau régulent par exemple le sphincter entre l'œsophage et l'estomac. Et le cerveau a aussi une influence sur la sécrétion des sucs. Les nerfs de l'appareil digestif, eux, veillent à ce que l'œsophage ne perde pas le rythme de sa hola et reste bien propre grâce aux milliers de gorgées de salive avalées chaque jour. Les petits trucs qui permettent de lutter contre les remontées acides et le reflux gastro-œsophagien ont tous pour objectif d'aider ces deux systèmes nerveux à rester sur le droit chemin. Mâcher du chewing-gum et boire du thé, par exemple, c'est sympa pour le tube digestif parce que de nombreuses petites gorgées indiquent alors aux nerfs la direction à prendre. Suivez-moi, c'est par ici. Direction l'estomac. Non, on ne fait pas demi-tour. Quant aux techniques de relaxation, elles ont pour effet de réduire le nombre de messages précipités envoyés au cerveau. Si tout se passe bien, la fermeture du sphincter œsophagien inférieur devrait alors être plus stable et la sécrétion de suc ralentie. La fumée de cigarette active des zones du cerveau qui sont aussi excitées lors des repas. La conséquence, c'est que le fumeur éprouve une sensation de bien-être, comme en mangeant, mais aussi qu'il produit sans raison plus de suc gastrique et que le sphincter de l'œsophage se relâche. Arrêtez de fumer quand on souffre de remontées acides gênantes ou de reflux gastro-œsophagien est donc souvent un traitement efficace. Les hormones de grossesse sont elles aussi susceptibles de causer du désordre. Normalement, leur rôle est de veiller à ce que l'utérus se détende et reste bien douillé jusqu'à la naissance. Mais elles en font un peu trop et agissent aussi sur le sphincter œsophagien. Résultat, les portes de l'estomac ferment mal et, avec la pression exercée par le ventre qui s'arrondit, le sucre monte. Même chose pour celles qui utilisent un contraceptif à base d'hormones féminines. Les remontées acides font partie des effets secondaires possibles. La fumée de cigarette, comme les hormones de grossesse, nous font prendre conscience d'une chose. Nos nerfs ne sont pas des câbles électriques isolés. Ils serpentent dans nos tissus auxquels ils sont liés organiquement et réagissent à toutes les substances qui les entourent. C'est pourquoi les médecins conseillent aussi de supprimer tous les aliments susceptibles de nuire à l'efficacité du sphincter. Le chocolat, les épices fortes, l'alcool, les aliments très sucrés, le café et bien d'autres. Si toutes ces substances influent sur nos nerfs, elles ne déclencheront pas les mêmes ratés gastriques chez tout le monde. Des études américaines invitent plutôt à tester un à un les aliments qui induisent une réaction excessive de nos nerfs, ce qui évite de se priver pour rien des aliments bien supportés. Un médicament qui n'a jamais pu être commercialisé à cause de ses effets secondaires a permis de mettre en lumière un parallèle intéressant. Il s'agit d'un médicament qui inhibe les nerfs là où se fixe normalement le glutamate, une substance surtout connue comme exhausteur de goût. Mais le glutamate est aussi formé par nos cellules nerveuses. Au niveau des nerfs de la langue, il entraîne une intensification des signaux gustatifs. Dans l'estomac, cela peut conduire à une certaine confusion, car les nerfs ne savent pas forcément si le glutamate livré est l'œuvre de leurs collègues ou celle du restaurant chinois d'à côté. Cela vaut donc le coup de faire l'expérience et de supprimer temporairement les aliments riches en glutamate. Pour mener à bien cette entreprise, vous aurez besoin d'une paire de lunettes grossissantes qui, au supermarché, vous permettront de déchiffrer les pattes de mouche de la liste des ingrédients. Le glutamate se cache parfois derrière de mystérieuses créatures, comme le E621, glutamate monosodique, et autres additifs. Si vous remarquez une amélioration, tant mieux. Sinon, eh bien, vous aurez au moins mangé plus sainement pendant un temps. Pour ceux qui ne ratent la marche gastrique pas plus d'une fois par semaine, il existe des moyens simples. Les antiacides vendus en pharmacie et, dans la catégorie remèdes de grand-mère, le jus de pomme de terre fonctionne bien. Toutefois, à long terme, neutraliser l'acidité est plutôt une mauvaise solution. Le suc gastrique est aussi là pour brûler les allergènes et les mauvaises bactéries alimentaires. Et il contribue à la digestion des protéines. Certains des médicaments antiacides contiennent en outre de l'aluminium, une substance très inhabituelle pour notre corps. Mieux vaut ne pas abuser sur les doses et toujours respecter la posologie indiquée. Les antiacides ne devraient pas figurer à l'ordre du jour pendant plus de 4 semaines. Ignorez ce conseil d'amis et vous aurez vite affaire à un estomac têtu qui réclame sa dose d'acidité. Pour cela, il va tout simplement se mettre à produire plus de suc gastrique. D'une part, pour compenser les effets du médicament, et d'autre part, pour retrouver son niveau d'acidité. Les antiacides ne sont jamais une solution à long terme, même pour lutter contre d'autres phénomènes en lien avec l'acidité gastrique, comme la gastrite, une maladie inflammatoire de la paroi stomacale. Les troubles persistent en dépit de la prise d'antiacides ? Le médecin doit alors faire preuve d'un peu plus de créativité. Pour commencer, il faut faire un bilan sanguin et un examen physiologique. Si les résultats sont normaux, le médecin peut proposer un traitement à base d'inhibiteurs de la pompe à protons, des molécules qui réduisent la sécrétion acide. L'estomac regrettera peut-être ici et là sa chère acidité, mais en pareil cas, la priorité est d'appuyer sur le bouton pause pour que l'estomac et l'œsophage puissent se remettre des attaques acides. Si les problèmes surviennent principalement la nuit, la juste déclitivité de l'oreiller peut y remédier. 30%, c'est parfait. Les plus bricoleurs s'armeront d'un rapporteur et d'un tas de coussins avant d'aller se coucher. Les moins aventuriers pourront se procurer un coussin spécial dans le commerce. Et puis, la position du buste à 30 degrés est excellente pour la circulation sanguine. Notre professeur de physiologie a dû nous le répéter une bonne 30aine de fois. Et comme la circulation sanguine, c'est sa spécialité et qu'il n'a pas l'habitude de se répéter, je veux bien le croire sur parole. Même si, maintenant, je ne peux plus entendre prononcer son nom sans l'imaginer aussitôt dormant à poing fermé, le buste relevé selon un angle d'exactement 30 degrés. Là où il vaut mieux ne pas dormir sur ses deux oreilles, en revanche, c'est en cas de perte de poids, de tuméfaction ou de perte de sang sous quelque forme que ce soit. Devant ces symptômes alarmants, il est temps de convier une caméra à une petite promenade digestive dans notre estomac, même s'il y a des choses plus agréables. Le véritable danger des remontées acides, ce n'est pas le suc, mais la bile, qui, depuis l'intestin grêle, peut remonter jusqu'à l'œsophage via l'estomac. Et si elle ne cause aucune sensation de brûlure, elle est bien plus perfide que le suc gastrique. Heureusement, sur tous les gens qui ont des remontées acides, il n'y en a que très peu qui sont touchés par le reflux biliaire. La présence d'acide biliaire jette le trouble chez les cellules de l'œsophage. Les voilà qui doutent soudain de leur identité. Est-ce qu'on est vraiment dans l'œsophage? C'est plein de bile ici. Je suis peut-être une cellule de l'intestin grêle? Et depuis toutes ces années, je ne m'en étais pas aperçue. Comme c'est gênant! Les cellules voulant bien faire font leur possible pour être en conformité avec les informations qu'elles reçoivent et se transforment alors en cellules intestinales. C'est là que les choses peuvent se gâter. Les cellules mutantes risquent de mal se programmer et de proliférer de manière incontrôlée. Mais rassurez-vous, parmi les gens qui ont tendance à rater la marche gastrique, rares sont ceux qui essuie des conséquences critiques. Le plus souvent, le reflux gastro-œsophagien et les remontées acides sont et restent de petites erreurs de parcours désagréables mais anodines. Ce n'est pas plus grave que de rater une marche. On se relève, on remet de l'ordre dans sa tenue, on neutralise sa frayeur d'un petit hochement de tête et on reprend son chemin prudemment. Dans le cas qui nous intéresse, on remet de l'ordre en buvant quelques gorgées d'eau, on neutralise l'acide et, pour bien faire, on reprend son chemin un peu plus prudemment. Chapitre 9. À vomir. Si l'on plaçait les uns à côté des autres, sans sujet qui s'apprête à vomir dans les prochaines heures, on obtiendrait un drôle de patchwork. Le numéro 14, par exemple, est assis dans un petit wagon, tout en haut des montagnes russes, et lève les bras. Le numéro 32 fait honneur à une délicieuse salade de pommes de terre à la mayonnaise. Le numéro 77 n'en revient pas de tenir entre ses mains un test de grossesse positif. Et le numéro 100 est en train de lire la notice d'un médicament où figure noir sur blanc, susceptible de causer des nausées et des vomissements. Vomir, ce n'est pas comme rater la marche. Quand il vomit, notre corps suit un plan d'urgence bien précis. C'est même du travail de pro. Des millions de petits récepteurs testent le contenu de notre estomac, analysent notre sang et digèrent des impressions au niveau du cerveau. Chacune des informations intervenant dans ce processus est collectée via l'immense réseau de fibres nerveuses, puis envoyée au cerveau. Le cerveau sait faire la part des choses. Selon le nombre et l'intensité des alarmes émises, il décide en son âme et conscience, vomir ou ne pas vomir. Le résultat des délibérations est communiqué à des muscles sélectionnés par le cerveau, qui se mettent aussitôt au travail. Si l'on passait nos 100 sujets au rayon X, tandis qu'ils sont en train de vomir, on obtiendrait 100 fois la même séquence. Alerté, le cerveau active la zone cérébrale responsable des nausées et déclare l'état d'urgence. Nos 100 sujets pâlissent, parce que les troupes sanguines se sont retirées des joues pour aller là où on a besoin d'elles, dans le ventre. La pression artérielle chute et le rythme cardiaque ralentit. Pour finir, un signe avant-coureur presque infaillible est déclenché, la salivation. Dès que le cerveau a informé la bouche de la situation, celle-ci sécrète de grandes quantités de salive pour protéger nos précieuses dents de l'attaque de suc gastrique. Ensuite, nous passons aux choses sérieuses. L'estomac et l'intestin commencent par faire des vagues. Agités de petites ondes nerveuses, ils poussent leurs contenus respectifs dans des directions contraires. Cette marche arrière, un peu désordonnée, se produit au niveau des muscles lisses, placés sous le contrôle du système nerveux autonome, si bien que nous n'en avons pas conscience. Mais intuitivement, c'est le moment où beaucoup d'entre nous comprennent qu'il leur faut vite dénicher un récipient approprié. Avoir l'estomac vide n'empêche pas de vomir, puisque l'intestin grêle peut lui aussi renvoyer son contenu en sens inverse. L'estomac ouvre alors ses portes et laisse passer le contenu de l'intestin grêle vers l'étage supérieur. Vu l'ampleur du projet, on ne fait pas de chichi et tout le monde travaille pour un objectif commun. Quand l'intestin grêle renvoie soudain son contenu à l'estomac, cette pression est à même d'exciter certains nerfs sensibles de l'estomac. Ceci envoie alors des signaux au centre du vomissement, une partie du cerveau qui contrôle l'appareil digestif. L'information est claire, c'est à vomir. Les poumons prennent une grande bouffée d'air, les voies respiratoires se ferment. L'estomac et le cardia se relâchent et... blam! Le diaphragme et les muscles de la paroi abdominale se contractent, exerçant soudain une pression d'en bas. Tout le contenu de notre estomac se vide alors comme du dentifrice pressé hors d'un vulgaire tube. Et avec fougue, s'il vous plaît, jusqu'à épuisement des stocks. Pourquoi nous rendons tripes et boyaux et comment limiter les dégâts? L'être humain est spécifiquement conçu pour vomir, et il n'est pas le seul animal à en être capable. Parmi nos collègues vomisseurs, citons les singes, les chiens, les chats, les cochons, les poissons et les oiseaux. En revanche, vous ne verrez jamais vomir une souris, un rat, un cochon d'Inde, un lapin ou un cheval. Leur œsophage est bien trop long et, d'ailleurs, ils ne sont pas dotés de nerfs S-vomissement. Les animaux incapables de vomir doivent recourir à d'autres stratégies pour s'alimenter en toute sécurité. Les rats et les souris mordillent leur nourriture. Ils mâchent de minuscules morceaux en guise de test et n'avalent le reste que si cette première bouchée est bien passée. Si la bouchée test était toxique, ils en sont quittes pour des maux de ventre, ce qui est toujours mieux que de s'empoisonner. Ils apprennent aussi à ne plus retenter l'opération avec l'aliment incriminé. Et puis, les rongeurs sont mieux équipés pour dégrader les poisons. Leur foie contient plus d'enzymes prévues à cet effet. Les chevaux, eux, ne peuvent même pas recourir à la méthode du mordillage. Et quand un poison est arrivé jusqu'à leur intestin grêle, le pronostic vital est souvent engagé. Morale de l'histoire, la prochaine fois que vous vous retrouvez penché au-dessus de la cuvette des WC, pensez à la chance que vous avez. Pendant la scène du vomissement, les silences qui entrecoupent le monologue vomitif nous laissent un peu de temps pour réfléchir. Tiens, la salade de pommes de terre à la mayonnaise du numéro 32 est étonnamment bien conservée après son séjour éclair dans les contrées stomacales. On reconnaît sans difficulté quelques morceaux de pommes de terre, des petits pois et des morceaux d'œufs. Le numéro 32 se dit alors platement « Oh ben, j'avais pas bien mâché ». Juste après, la deuxième tirade dépose au fond de la cuvette un mélange plus fragmenté. Quand la « quiche », ainsi qu'on la qualifie parfois, contient des morceaux reconnaissables, c'est vraisemblablement qu'elle a été cuisinée par notre estomac et pas par notre intestin grêle. Plus le produit livré est taché menu, amer ou acide, plus il est probable qu'il soit l'œuvre de l'intestin grêle. Les aliments nettement reconnaissables n'ont pas été bien mâchés, c'est vrai. Mais au moins, ils ont été éjectés de l'estomac à temps et ne sont pas arrivés jusqu'à l'intestin grêle. La manière de vomir est aussi un indicateur intéressant. Si les vomissements viennent brutalement, presque sans prévenir et en ingé puissant, il y a fort à parier qu'il s'agit d'un virus de gastro. Les récepteurs sont en effet prudents. Ils comptent d'abord le nombre d'agents pathogènes qu'ils rencontrent, et quand ils estiment que là, ça commence quand même à faire beaucoup, ils tirent la sonnette d'alarme. En deçà de ce seuil, le système immunitaire aurait encore pu s'en sortir tout seul. Mais trop, c'est trop. Et le dossier est transmis aux muscles de l'appareil digestif. Dans le cas d'une intoxication avec des aliments avariés ou de l'alcool, les vomissements sont tout aussi soudains, mais plus sympas. Avant d'arriver, ils ont la gentillesse de nous prévenir en nous envoyant un petit signe, les nausées. La nausée, c'est un peu une enseignante sévère qui nous punit pour nous apprendre à ne pas refaire la même erreur. À l'avenir, le sujet numéro 32 sera plus méfiant quand il croisera une salade de pommes de terre à la mayonnaise. Le numéro 14, sur ces montagnes russes, n'est pas plus en forme que le numéro 32. Le dégobillage version grand 8 fonctionne selon le même principe que le mal des transports. Ici, pas de poison. Ce qui n'empêche pas le vomi de nous éclabousser les pieds, de remplir le vide-poche ou, porté par le vent, d'aller s'écraser sur la vitre arrière. Notre corps est placé sous la haute surveillance du cerveau, qui se montre prudent et rigoureux, surtout chez les jeunes enfants. Pour la version « on the road » des vomissements, l'explication la mieux étayée est actuellement la suivante. Quand les informations délivrées par les yeux diffèrent très nettement de celles des oreilles, le cerveau ne sait plus où donner de la tête et sonne le tocsin. En voiture ou en train, quand vous lisez un livre, les yeux transmettent l'information « mouvement quasi nul », tandis que le capteur d'équilibre de l'oreille indique « mouvement puissance 10 ». Inversement, quand vous observez les troncs d'arbres derrière la vitre, tout en bougeant légèrement la tête, vous avez l'impression que les arbres défilent bien plus vite que ne l'implique le mouvement réel. Dans un cas comme dans l'autre, le cerveau ne sait plus où il en est. Pour lui, une telle contradiction entre la vision et le sens de l'équilibre est le signe d'une intoxication. Quand on a trop bu ou consommé des drogues, même affalé sur un canapé, on ressent une impression de mouvement. Autre cas de figure. Les vomissements déclenchés par des émotions fortes, épreuves psychologiques, stress ou effroi. En temps normal, nous produisons chaque matin de la corticolibérine, une hormone du stress également appelée CRH, corticotropine releasing hormone, et constituons ainsi un petit rembourrage douillet et protecteur pour la journée. La CRH est là pour que nous puissions accéder à nos réserves d'énergie, pour empêcher notre système immunitaire d'en faire trop ou pour que notre peau, stressée par les rayons du soleil, brunisse afin de se protéger. Dans une situation particulièrement oppressante, le cerveau peut augmenter la dose de CRH dans le sang. Seulement voilà, la CRH n'est pas uniquement produite dans les cellules cérébrales. Elle provient aussi des cellules gastro-intestinales. Là encore, ce signal signifie « Attention, stress et menace en vue !» Quand les cellules gastro-intestinales détectent une quantité importante de CRH, peu importe que le signal vienne du cerveau ou de l'intestin, cette seule information indiquant que l'un des deux est dépassé par son environnement suffit à déclencher une réaction de secours. Une diarrhée, des nausées ou des vomissements. En cas de stress cérébral, vider son estomac permet d'économiser de l'énergie que le cerveau va alors utiliser pour venir à bout de ses problèmes. En cas de stress intestinal, le bol alimentaire est catapulté en sens inverse parce qu'il est toxique ou que l'intestin n'est pas en mesure de le digérer correctement. Dans les deux cas, jeter du lest est une sage décision. Le moment est tout simplement mal choisi pour digérer tranquillement. Conclusion. Ceux d'entre nous qui vomissent quand ils sont nerveux sont en fait dotés d'un appareil digestif attentif qui donne le meilleur de lui-même pour les aider. Chez certains oiseaux de mer, les vomissements ont encore une autre fonction. Le pétrel, par exemple, vomit pour se défendre. C'est efficace. Les autres animaux le laissent en paix, à la différence des scientifiques qui, eux, profitent de la situation pour s'approcher des nids et récupérer dans un petit sac vomitoire ce que le pétrel voudra bien leur offrir. En laboratoire, le contenu gastrique est ensuite analysé. En étudiant la présence de métaux lourds ou la diversité des poissons consommés, les scientifiques peuvent par exemple dresser un bilan de santé de l'environnement. Oh les cœurs ! Voici maintenant quelques astuces pour éviter les haut le cœur quand ils ne sont pas vraiment justifiés. En cas de mal des transports, regardez au loin devant soi. Les informations des yeux et celles de l'organe dédié au sens de l'équilibre sont ainsi mieux synchronisées. On obtient parfois de bons résultats en écoutant de la musique, en s'allongeant sur le côté ou en faisant quelques exercices de relaxation. Pourquoi ? Sans doute parce que ces techniques ont un effet apaisant sur nous. Or, plus nous nous sentons en sécurité, moins notre cerveau est susceptible de décréter l'état d'urgence. Le gingembre. Son efficacité est aujourd'hui attestée par une série d'études. Des substances contenues dans les rhizomes de cette plante bloquent le centre du vomissement et par conséquent l'envie de vomir. Si vous optez pour des bonbons ou tout autre produit à base de gingembre, vérifiez cependant qu'il ne s'agit pas seulement d'un arôme, mais qu'il y a bien du vrai gingembre dedans. On trouvera en pharmacie des médicaments contre les vomissements et les nausées. Ces antiémétiques agissent selon différents principes. Certains, comme le gingembre, bloquent des récepteurs du centre du vomissement. D'autres anesthésient les nerfs de l'estomac et de l'intestin. D'autres encore répriment certains signaux d'alarme. Les médicaments qui fonctionnent selon ce dernier principe sont presque identiques aux traitements contre les allergies. Dans les deux cas, il y a inhibition de l'histamine, une molécule de signalisation. Toutefois, l'action des médicaments sur le cerveau est bien plus puissante dans le cas des antinauséeux. Les antihistaminiques modernes, eux, ont été beaucoup améliorés ces dernières années et ne se fixent quasiment pas dans le cerveau. Ils contournent ainsi l'un des effets secondaires liés à l'inhibition de l'histamine dans cet organe, la fatigue. P6. Il s'agit d'un point d'acupuncture désormais reconnu par la médecine classique. Plus de 40 études sur les nausées et les vomissements, y compris en comparaison avec des groupes placebo, ont démontré son efficacité. Nous ne savons ni pourquoi, ni comment, mais nous savons que ça fonctionne. Le point P6 se situe 2 à 3 largeurs de doigts sous le poignet, juste entre les deux tendons fléchisseurs de l'avant-bras. Si vous n'avez pas d'acupuncteur sous la main, vous pouvez effleurer doucement ce point jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Même s'il n'y a pas encore d'études sur la validité de l'automassage, cela vaut le coup d'essayer. D'après la médecine traditionnelle chinoise, le point P6 active des méridiens qui vont des bras vers le cœur, détendent le diaphragme et se prolongent jusqu'à l'estomac ou, plus bas, jusque dans le bassin. Ces petites astuces ne viendront pas à bout de toutes nos envies de vomir. Les remèdes comme le gingembre, les antiémétiques ou le point P6 ont démontré leur efficacité. Mais quand il s'agit de vomissements émotionnels, le remède le plus efficace est sans doute de prendre soin de notre psychisme, en lui offrant un cocon douillet et rassurant.